Bonjour Patrick Morin.
Bonjour.
Patrick Morin, vous êtes le marcheur de l'espoir et vous êtes de passage dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes en cette fin du mois de février. Patrick Morin, vous marchez pour dénoncer le désespoir agricole. Vous êtes lancé dans ce combat depuis septembre 2016. Vous allez nous raconter un petit peu l'enjeu, les objectifs de cette démarche et de ces marches hein, que vous faites. D'abord, le déclic. Comment vous vous êtes engagé dans cette marche pour dénoncer le désespoir agricole? Vous qui n'étiez pas agriculteur, vous avez pris ce problème à bras-le-corps. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Oui, c'est vrai que j'ai parcouru tant de kilomètres sur les chemins de France et tant de fois j'ai pu entendre cette peine que l'on ressent lorsque l'on perd un proche, un ami. Et en connaissance de cause, donc, depuis décembre 2008, j'ai perdu mon meilleur ami agriculteur dans le Lot-et-Garonne, près de Marmande, à Gontaut-de-Nogaret, exactement. Et je n'avais rien vu venir, si on peut dire, parce que nous déjeunions souvent ensemble, le dimanche ou autre. Et cette fois-là, j'ai reçu un coup de fil de ses proches en me disant « Christian s'est suicidé ». J'ai voulu savoir pourquoi. Christian, cet agriculteur, a disparu. Pourquoi il a mis fin à ses jours.
Il était éleveur de vaches.
Il était éleveur de vaches et on devait lui saisir son cheptel quelques jours après. Donc il n'a pas supporté. Il faut se dire qu'un éleveur de vaches, un agriculteur en général, le paysan, quoi, comme je dis, un amour pour ses vaches, pour ses volailles, pour tout ce qui peut l'entourer, quoi, de par chez lui, tous ces animaux qu'il peut avoir. Et ils ont tellement d'amour envers ça que lui, principalement, n'a pas compris pourquoi on allait lui embarquer son cheptel, quoi. Donc il a mis fin à ses jours. Et donc 2008, ça a commencé à me travailler pour me dire qu'est-ce qui se passe dans ces campagnes, qu'est-ce qui se passe vraiment pour les agriculteurs.
Vous n'aviez pas avant conscience de ce malaise à ce point-là chez les agriculteurs. Alors on peut donner un chiffre qui est assez terrifiant. Il y a 1 à 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour en France. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Aujourd'hui, on est en 2021. C'est un chiffre qui n'est pas nouveau. Le suicide de votre ami, ça a été un déclic pour...
Oui, ça a été un déclic parce qu'encore, on n'en parlait pas beaucoup. Ouais, les fins 2000, dans les débuts des années 2000, on ne parlait pas beaucoup de suicides, de problèmes chez nos agriculteurs. Ça a toujours existé, mais personne n'en avait bien conscience. Moi, suite à ça, j'ai pu... vraiment approfondir, en prendre conscience. Et c'est pour ça que dès que j'ai été à la retraite en 2016, j'ai voulu alerter l'opinion publique. J'ai voulu alerter monsieur tout le monde, alerter la France en général. Et j'ai décidé donc, au mois de septembre 2016, de prendre mon bâton de pèlerin, mon béret, puis mon anorak rouge, c'est un petit peu mon emblème aujourd'hui, pour traverser la France. Je suis parti de Marmande jusqu'à la Assemblée nationale à Paris. J'ai fait plus de 800 km à pied et j'allais de ferme en ferme pour voir réellement qu'est-ce qui pouvait se passer dans nos campagnes pour que les agriculteurs arrivent à mettre fin à leur jour, alors que c'est eux qui nous nourrissent et c'est pas ceux qu'il faudrait. Ils nous nourrissent et puis ils mettent fin à leur jour. Où est le problème? Là, vraiment, j'ai pu découvrir ce qui en était. Quoi.
Alors, quelles sont les réponses que vous avez trouvées à la rencontre de ces agriculteurs? Quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, il y a un tel désespoir, un tel mal-être chez nos agriculteurs?
La cause première, c'est déjà la vente de leurs produits. Ils vendent leurs produits en dessous de leur prix de revient. les supermarchés, on va dire en général, achètent ces produits bien en dessous du prix de revient, quoi. Je vais vous donner un exemple, comme le lait. Le lait, il faudrait qu'ils puissent le vendre à 40, 41 centimes et on le rachète à 33, 34 centimes le litre. Hein. Je parle en litre pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mmh. 33 centimes, ils vont perdre 5, 6 centimes par litre, mais voyez sur les hectolitres et autres, combien ça peut faire. Et pour le moment, il n'y a rien. Même s'il y a une nouvelle loi, la loi Egalim, entre autres, qui a été mise en place, on n'arrive pas, ils n'arrivent pas à faire face, à dénoncer ces supermarchés qui les écrasent encore, quoi. C'est catastrophique, quoi, à l'heure actuelle. Une des causes principales, on va dire. Après, comme autre cause, on peut dire qu'il y a l'éloignement. Il y a de moins en moins d'agriculteurs aussi dans le paysage français, dans nos campagnes. Ça fait qu'ils se retrouvent de plus en plus seuls, avec de plus en plus de travail à fournir. Autrefois, nous avions 30-40 hectares par famille. Maintenant, on se trouve avec un minimum de 100 hectares. 200 hectares, si on peut dire, pour un agriculteur. Donc, il faut davantage de travail, avec moins de personnes, on va dire tout seul. Un moyen avec les tracteurs, le moyen moderne, pareil, ils n'embauchent personne. Donc, ça fait que le travail, eh bien, ils le font eux, et puis avec le matériel qu'ils ont, quoi.
Vous voulez dire que le système les oblige à travailler à une échelle qui ne correspond pas, en fait, à leur réalité de vie.
Absolument, absolument. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils devraient. Puis, ils ont de plus en plus d'emprunts. Pourquoi ils ont ces emprunts? Parce que c'est pareil, on exige des normes françaises qui sont vraiment aussi, on va dire, draconiennes. Alors, on est les meilleurs du monde, je dis bien, les agriculteurs, nos paysans français, sont ont les meilleurs produits au monde. Mais à côté de ça, avec des contraintes pas possibles, que nous ne retrouvons pas dans les autres pays européens. On est un petit peu frustrés parce que je vais vous prendre, pour moi, l'exemple que je prends facilement, c'est la tomate. Alors, en étant de Marmande, je parle de la tomate de Marmande.
Oui, parce que vous êtes un petit peu chauvin. Hein
au passage, on va dire, au passage. Et on pourrait parler de la fraise.
Mais
aussi.
On ne peut pas vous le reprocher.
Mais à côté de ça, quand vous voyez la tomate d'Espagne à moitié prix qui arrive sur le marché français, avec des normes sanitaires qui sont pas les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire les emplois des produits phyto et autres, on peut pas jouer, on joue pas sur le même terrain, quoi. Et ça porte préjudice, naturellement, à nos agriculteurs français, à nos paysans français. Ces normes européennes devraient être partout pareilles, et non pas uniquement en France.
Est-ce que c'est plus difficile chez des agriculteurs que d'autres? Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, quand on est producteur de vaches? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus, des données?
Il y a des données. Alors, c'est vrai que je ne les ai pas toutes en tête. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais le producteur de bovin... les produits laitiers, celui qui a des vaches laitières, quoi, sont beaucoup plus en difficulté, si on peut dire, que celui qui fait des blés, que celui qui va faire ses céréales, hein, en général. Oui, il y a davantage, il y a une fracture à ce niveau-là, et entre chaque catégorie d'agriculteurs. On peut le dire.
Alors, comment ont-ils perçu ces agriculteurs, ces paysans, comme vous aimez les appeler, comment ont-ils perçu votre démarche? Vous arrivez chez eux en expliquant l'enjeu de votre marche, le souci que vous avez de dénoncer ce désespoir du monde agricole, mais vous-même, vous n'êtes pas issu du monde agricole, quoique là-dessus, on pourrait en discuter, parce que finalement, on est tous issus du milieu rural et du monde agricole, quelque part. Comment ont-ils perçu votre démarche?
Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident du tout parce que je me rappelle lors de ma première marche, donc comme je vous disais en début, quand je suis parti à Paris, le long de mes 800 kilomètres, J'ai passé la moitié du temps, si on peut dire, le soir, à dormir dans des lieux insolites, pour pas dire sous un pont, pour pas dire dans un pré. Alors, il faisait beau, hein, malgré tout, vous inquiétez pas, j'étais pas trop malheureux. Dans des hôtels aussi, quand il fallait, parce que, bon, de temps en temps, il fallait bien que je me douche, il fallait bien que je... Mais je passais davantage de temps à l'extérieur plutôt qu'à dormir chez l'agriculteur, parce que quand je me présentais, je n'étais pas connu. Bon, vous allez frapper à une porte, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se confie pas facilement, ça n'a pas été facile de délier les langues. Mmh. L'agriculteur, il est quand même replié sur lui, quoi, sur sa famille, sur lui-même. Il ne s'ouvre pas, il ne s'ouvrait pas, lapsus, il ne s'ouvrait pas tant que ça. Et quand je suis reparti, la deuxième fois que je suis reparti, alors là, j'étais parti à Saint-Andoré, en Bretagne.
En Bretagne, oui.
TF1 m'a suivi. Et ça a été suite à l'émission de Jean-Pierre Pernaut, puisque j'étais passé au journal de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut, ça m'a ouvert les portes. C'est vrai que là, aussitôt après, j'ai pu réellement expliquer ma démarche, j'ai pu réellement être fusionnel avec le monde de paysans.
Et là, les langues se sont déliées.
Et les langues se sont déliées, mais vraiment ouvertement. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire à quel point j'ai eu des veuves qui sont venues me rencontrer. Qui ont fait 200, 300 kilomètres en voiture, qui voulaient me rencontrer lors de cette marche quand je suis parti à Saint-Andoré pour pouvoir échanger avec moi, pour pouvoir dire comment ça se passe dans leur... on peut dire que réellement, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé.
En fait, tout d'un coup, ces personnes-là avaient un porte-voix.
Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est vrai que... alors, je vais rester... Je veux rester quand même humble là-dessus, quoi. Hein. Mais cette mission, si on peut dire, que j'ai trouvée par ailleurs, hein, je ne sais pas, de par là-haut, je suis croyant, hein, pour vous dire, je suis à 200% croyant. Et cette mission qui m'a été peut-être donnée, comme je le ressens, m'a ouvert quand même beaucoup après de portes de ces paysans. Et après, je dormais relativement facilement chez eux. J'étais invité chez eux. Demain, vous irez dormir, on me disait, demain, vous irez dormir, ou demain, Patrick, tu iras dormir chez tel agriculteur à 20 ou 30 kilomètres à ta prochaine ville étape, t'inquiète pas. Et ça s'est développé comme ça, où les gens, de bouche à oreille, j'ai été accueilli d'une façon formidable à travers toute la France.
Est-ce que vous avez ressenti que votre venue rompait quelque part aussi une espèce de solitude?
Oui, de solitude, de silence, de quelque chose d'intérieur qu'ils avaient besoin de pouvoir échanger. Je me suis retrouvé des tables le soir où on était une dizaine. Ils avaient invité une dizaine de voisins, d'agriculteurs, et chacun me racontait leurs difficultés ou pourquoi ils étaient un petit peu dans la mouise ou pourquoi telle personne s'était suicidée. Leur cœur, quoi, s'est ouvert et ils se sont confiés d'une façon formidable, si bien que j'ai pu en faire un cahier, quoi. J'ai eu ce cahier de doléances que j'ai pu faire remplir par beaucoup d'agriculteurs lors de ma dernière marche.
Et ce cahier de doléances, vous l'avez remis à Emmanuel Macron, au président de la République, que vous avez rencontré et que vous avez sensibiliser aussi, parce que votre démarche, elle est là aussi, oui. C'est d'avoir un message d'espoir, d'espérance à l'encontre des agriculteurs, mais aussi de sensibiliser le grand public et les élus.
Et les élus, principalement, on va dire les élus qui détiennent, eh bien oui, le pouvoir, et c'est ce pouvoir qu'il faut leur faire comprendre.
C'est eux qui peuvent faire changer les choses.
C'est à partir du président de la République. Alors quand je lui ai remis mon cahier de doléances, il a été touché à tel point qu'il me dit, mais monsieur Morin, c'est pas possible quand même ce qui se passe. je dis, si, président, voyez qu'est-ce qui se passe dans nos campagnes. Venez, venez me trouver, venez faire quelques kilomètres avec moi. Je lui ai dit sincèrement, et oui, il est prêt à venir, à suivre mon action de plus près, s'il le faut. J'ai pu rencontrer le ministre de l'Agriculture à l'époque, Didier Guillaume, qui m'a bien dit, c'était en 2018, je suis en train de créer une nouvelle loi, monsieur Morin, ça s'appelle la loi Egalim. Alors c'est vrai que cette loi Egalim, ça y est maintenant sur le devant, est venue sur, depuis 2021, quoi, ce début d'année.
Qu'est-ce que c'est que cette loi Egalim?
Alors, cette loi Egalim qui permet justement aux agriculteurs, d'une part, quoi, aux agriculteurs de vendre au véritable prix. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suivi encore par les supermarchés, comme je disais tout à l'heure. Alors, on voit de plus en plus d'agriculteurs qui manifestent dans ces supermarchés, qui vont coller des étiquettes pour dire, voilà, ce n'est pas à ce prix, ce n'est pas à ce prix, ou c'est des produits qui arrivent de l'extérieur, qui n'arrivent pas de la France. On voit de plus en plus d'agriculteurs en ce moment. Alors, je ne vais pas dire que je les encourage, mais il faut qu'ils aillent sur le devant aussi de la scène pour dire, voilà, on en a marre, il faut en faisant des actions pacifiques, hein, je reste dans ces actions-là, pacifiques surtout, pour pouvoir qu'ils défendent quand même cette loi Egalim, et puis qu'ils défendent aussi leur beefsteak, quoi, ouais. On va dire.
Alors, on parle de la responsabilité des élus, mais il y a aussi les consommateurs. Et les consommateurs aussi ont un rôle à jouer. On l'entend bien à travers ce que vous dites, c'est que la manière dont on consomme, les choix que nous faisons quand on va au supermarché, ou quand on va d'ailleurs dans un magasin de producteurs, hein, il y en a ici en Bigorre, nous avons de la chance, on a une responsabilité. Ce qu'on choisit d'acheter pour se nourrir, ça engage évidemment notre mode de consommation, mais ça a une implication aussi sur la vie de l'agriculteur, des agriculteurs qui sont derrière. Ça, c'est très important, la responsabilité des consommateurs.
La responsabilité des consommateurs, absolument. Il faut que le consommateur puisse lire et lire entre les lignes, en plus, je dirais, les produits qui viennent de France et les produits qui viennent de la région. Il faut motiver davantage les maires. Moi, c'est les maires qui doivent être responsabilisés déjà là-dessus, pour que chaque maire puisse avoir dans sa commune, dans sa ville, un magasin de producteurs qui puisse mettre à disposition d'un ensemble d'agriculteurs et puis qui puisse vendre leurs produits, qu'on achète les produits locaux. Il faut se dire qu'il faut vraiment les aider parce qu'à l'heure actuelle, nous avons plus de 200 fermes par semaine qui disparaissent. Si on ne les aide pas en allant acheter directement les produits ou autres, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger d'ici quelques années?
Pourquoi nos ces enfants... fermes, 200 fermes chaque semaine en France qui disparaissent? Pourquoi? Parce que l'agriculteur... Alors, laisse tomber, arrive... entre guillemets.
Alors, ou... l'agriculteur, d'une part, qui n'y arrive pas, laisse tomber. C'est vrai que vaut mieux qu'il laisse tomber plutôt que de se disparaître, de se suicider. Hein. Ça, c'est la première solution que je leur donnerai. Il y a de plus en plus d'agriculteurs. Nous sommes à peu près dans une phase où il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent leur retraite. Il faut que les jeunes puissent reprendre tout ça à leur compte et puis avoir des aides suffisamment aussi pour pas trop s'endetter, parce que c'est le véritable problème. Autrefois, il y avait toujours un garçon, éventuellement une fille d'agriculteur qui reprenait la ferme. Maintenant, elles se vendent de plus en plus. Alors, il faut que ces fermes puissent se vendre à des prix raisonnables, les terres à des prix raisonnables. Et puis, voilà, il faut pouvoir aider.
Mais l'agriculture, c'est un métier de passion.
Métier de passion. On voit beaucoup... Alors, on voit de plus en plus, on va dire, de Parisiens, je vais dire de Parisiens, qui prennent des fermes, même par chez nous, par ici, quoi, qui vont élever des moutons ou autre. Et on voit que c'est une passion. Ils laissent tomber vraiment la facilité de la vie parisienne pour se retrouver agriculteurs. Et c'est le cœur, là, vraiment, qui parle. Mais il faut les aider. Il faut être avec eux. Il faut aider le paysan en général à pouvoir s'en sortir. Il ne faut pas oublier quand même que c'est pareil. Le paysan, à l'heure actuelle, a une épée de Damoclès. Cette épée de Damoclès qui arrive du Mercosur.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots de quoi il s'agit quand on parle du Mercosur? Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce Mercosur, c'est une alliance commerciale, le marché commun du Sud, auquel sont ralliés l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, qui doivent faire un échange avec des produits européens. Et ce Mercosur, la France, donc, ça a été au mois de septembre de l'année dernière, septembre 2020, où le président de la République a mis tout en suspens jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 22. Il faut être très attentif, naturellement, là-dessus, à ce que nous ne signions pas ce Mercosur.
Et oui, parce que l'enjeu, c'est quand même qu'on réapprenne à bien manger, hein, puisqu'en en plus, c'est à la mode, et qu'on mange local.
Et qu'on mange local, oui. Il faut absolument qu'on mange local. Faut penser à nos enfants, il faut penser à la santé. La santé, le serment d'Hippocrate, si on peut dire, à partir de la santé, manger sainement, et vous aurez une bonne santé. Si on mange du n'importe quoi, de ce qui arrive vraiment de l'extérieur et encore plus de l'Amérique du Sud, qui sont tous ces animaux qui sont piqués ou autres, où va partir notre santé? Où va partir le déficit de la sécurité sociale? Pensons à ça aussi, c'est des éléments qui sont très très importants, quoi.
Alors Patrick Morin, votre marche n'est pas vaine parce qu'elle permet d'abord de parler de ce sujet-là. Et depuis que vous avez entrepris cette marche pour l'espoir, de plus en plus d'agriculteurs prennent la parole, ou en tous les cas, on leur donne plus facilement la parole dans les médias. Et souvent, on entend les agriculteurs dire « mais on souffre aussi du regard des consommateurs et des gens sur notre métier, sur nous, parce qu'on sent qu'ils ne nous font pas confiance ». Il y a aussi également une responsabilité de l'agriculteur de s'engager à produire bien.
Voilà,
les consommateurs attendent ça aussi.
Oui, c'est exact. Il faut que les agriculteurs prennent vraiment conscience qu'eux, ils ont toutes les billes en main pour pouvoir faire quelque chose de bien, pour dire de très bien. Et ils ont toute cette responsabilité et c'est pour ça que je leur dis, libérez-vous de donner de votre parole. Je suis un de vos porte-parole, mais il y en a d'autres. On voit Édouard Bergeon qui a sorti ce film au de la terre aussi, qui a permis de libéraliser aussi les esprits là-dessus. Dernièrement, nous avons eu un reportage aussi sur France 2.
Nous, paysans.
Voilà, Nous, paysans, cette émission qui était formidable, qui a permis de remettre de la juste valeur aussi pour nos paysans, pour cette agriculture française qui souffre. Mais il faut arriver à ne plus parler de souffrance. Il faut parler d'avenir. Et c'est cet avenir que je voudrais, cet espoir que je voudrais apporter dans nos campagnes. Il faut apporter un quelque chose de neuf maintenant pour que vraiment nos paysans se libèrent déjà de la parole, puissent prendre conscience que c'est grâce à eux aussi qu'on vit bien et tous ensemble on y arrivera.
On entend bien votre message d'espérance, Patrick Morin. C'est de ça aussi dont vous allez parler aujourd'hui. Vous êtes à Lourdes, vous allez rencontrer Mgr Nicolas Brouvet, l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes. Ça, c'est important pour vous aussi d'aller à la rencontre des élus, mais aussi des représentants de l'Église en France.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'avais déjà alerté un petit peu l'évêque de Vannes. Là, j'ai voulu rencontrer Mgr Nicolas Brouvet pour échanger vraiment avec lui cet après-midi. Alors, je devais le faire d'une autre façon, dans la mesure où, cette semaine, je devais partir de Marmande, le week-end dernier, je devais partir de Marmande à pied, arriver à Lourdes à pied, mais pour des raisons sanitaires, hélas, je n'ai pas pu faire cette marche. Mais malgré tout, avec l'évêque, il m'a dit qu'il faut garder quand même cette journée pour les agriculteurs. Ça fait que cet après-midi, il y aura une messe à 16h qui sera pour les familles endeuillées de ces agriculteurs qui sont partis vraiment trop tôt, quoi. Et je vais l'en remercier doublement pour qu'il ait maintenu cette messe pour nos agriculteurs.
Comment peut-on vous aider, vous encourager, vous soutenir dans votre démarche et peut-être vous rejoindre, Patrick Morin? Alors déjà, on peut aller voir tout ce que vous faites et tout ce que vous avez entrepris, hein, alors sur Internet, en particulier sur votre page Facebook. Facebook, le marcheur de l'espoir. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'indications, mais qu'attendez-vous de nous?
Eh bien, que tout le monde puisse en parler déjà librement. Je suis en train d'organiser un congrès national à Fouleyron le 9 et le 10 octobre 2021. Pendant 2 jours, donc, il va y avoir une exposition de matériel agricole, entre autres, et il y aura des tables rondes. C'est là-dessus que j'aimerais que un maximum de Françaises, de Français puissent venir. Un maximum d'agriculteurs, de paysans puissent venir pour pouvoir participer à cette conférence sur le mal-être agricole ou comment éviter le pire. Je fais tout pour que le président de la République vienne. Je ne sais pas si j'y arriverai. Que le ministre de l'Agriculture aussi, Julien de Normandie, puisse être là. Et tout ça en collaboration avec Olivier Damézin, qui est le député de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne, et Henri Cabanel aussi, qui est sénateur, qui est en train de préparer un rapport pour le Sénat en ce moment pour les agriculteurs.
Voilà, donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Merci beaucoup, Patrick Porrin. J'indique votre site internet, lemarcheurdelespoir47.com, tout attaché en minuscules, lemarcheurdelespoir47.com. Et là, on peut vous suivre et s'associer à votre marche de l'espoir. Un grand merci à vous, Patrick Morin.
Merci à vous.